Chapitre 29. Nos destinées nous séparent. Descendu au rez-de-chaussée, j'en voyais demander un moment d'entretien à la propriétaire de la maison. J'avais encore à apprendre dans quelle prison de Londres était enfermée Von Brandt, et elle était la seule personne à laquelle je pusse m'aventurer d'adresser cette question. Après avoir répondu à mes demandes, cette femme interpréta sordidement mes motifs de visiter le prisonnier. Est-ce que l'argent que vous avez laissé là-haut se trouve déjà dans ces poches à vide? Demanda-t-elle. Si j'étais aussi riche que vous, je l'y laisserais. À votre place, je ne voudrais pas le toucher avec une paire de pincettes. Le grossier avis de cette femme me fut réellement utile. Il fit éclore une nouvelle idée dans mon esprit. Avant qu'elle eût parlé, j'étais trop triste ou trop préoccupé pour comprendre qu'il était parfaitement inutile de me dégrader moi-même en communiquant personnellement avec Von Brandt dans la prison. Il me vint alors seulement à l'esprit que les personnes propres à me représenter dans cette affaire étaient mes conseils judiciaires et que j'y trouverais en outre cet avantage qu'il pouvait tenir secrète pour Von Brandt lui-même ma participation dans la transaction. Je me rendis immédiatement en voiture à l'étude de mes avoués. Le principal patron, l'ami et le conseil éprouvé de notre famille, me reçut. Mes instructions, naturellement, l'étonnèrent fort. Il devait payer immédiatement les créanciers du prisonnier de ma part, mais sans divulguer mon nom à personne. Il devait gravement accepter, en garantie de remboursement, la signature de M. Von Brandt. Je croyais bien connaître les nombreuses manières dont un gentleman peut jeter son argent par la fenêtre, remarqua le principal patron. Je vous félicite, monsieur Germaine, d'avoir découvert une façon entièrement nouvelle de vider efficacement votre bourse. Fonder un journal, diriger un théâtre, courir, jouer à Monaco sont des modes très efficaces de perdre son argent, mais ils cèdent le pas au paiement des dettes de monsieur Von Brandt. Je le quittai pour retourner chez moi. Le domestique qui ouvrit la porte avait un message de ma mère pour moi. Elle désirait me voir aussitôt que j'aurais le loisir de lui parler. Je me présentai de suite dans le boudoir de ma mère. « Eh bien, Georges, dit-elle sans un mot de préparation à ce qui allait suivre, comment avez-vous laissé Madame Von Brandt ?» Je fus complètement prise au dépourvu. « Qui vous a dit que j'avais vu Madame Von Brandt ? » demandai-je. « Mon cher, votre figure me l'a dit. Est-ce que je ne sais pas maintenant quel air vous avez et comment vous parlez lorsque vous avez Madame Von Brandt en tête ? Asseyez-vous près de moi. J'ai à vous dire quelque chose que je voulais vous dire ce matin, mais je ne sais pourquoi, le courage m'a manqué. Je suis plus hardi maintenant et je puis vous le dire. » « Mon fils, vous aimez encore Madame Von Brandt. Je vous permets de l'épouser. » Telles furent ses paroles. Il s'était à peine écoulé une heure depuis que les propres lèvres de Madame Von Brandt m'avaient déclaré que notre union était impossible. Il n'y avait pas même une demi-heure que j'avais donné les instructions nécessaires pour rendre à la liberté l'homme qui était le seul obstacle à mon mariage. Et c'était ce moment que ma mère avait innocemment choisi pour consentir à accepter Madame Von Brandt pour sa belle-fille. « Je vois que je vous étonne, reprit-elle. Laissez-moi vous expliquer mes motifs aussi clairement que possible. Je mentirais, Georges, si je vous disais que j'ai cessé d'apprécier les objections sérieuses qui s'élèvent contre votre mariage avec cette dame. » La seule différence qui existe dans ma manière de voir, c'est que je suis disposé aujourd'hui à mettre de côté mes objections par égard pour votre bonheur. Je suis une vieille femme, mon cher. D'après la loi de la nature, je ne puis espérer demeurer bien longtemps encore avec vous. Quand je serai parti, qui vous soignera et vous aimera à la place de votre mère? Personne, à moins que vous n'épousiez Madame Von Brandt. Votre bonheur est ma première considération, et la femme que vous aimez, quelque tristement qu'elle ait été détournée du droit chemin, mérite un meilleur sort. Épousez-la. » Je n'osais parler. Je ne pus que m'agenouiller aux pieds de ma mère et cacher mon visage sur ses genoux, comme si j'étais redevenu enfant. « Pensez-y, Georges, dit-elle, et revenez me trouver lorsque vous serez assez calme pour causer de l'avenir aussi tranquillement que moi. » Elle me prit la tête et m'embrassa. En me levant pour la quitter, j'aperçus, dans ses chers vieux yeux qui me regardaient si tendrement, quelque chose qui me frappa d'une crainte subite, aiguë et perçante comme un coup de couteau. Dès que j'eus fermé la porte, je descendis chez le concierge. « Ma mère a-t-elle quitté la maison pendant que j'étais sortie ?» demandai-je. « Non, monsieur. Est-il venu quelque visite ?»« Une seule, monsieur. Savez-vous qui c'était ?» Le concierge m'indiqua le nom d'un célèbre médecin, alors à la tête de sa profession. Je pris immédiatement mon chapeau et je me rendis chez lui. Il venait justement de rentrer de ses visites. On lui remit ma carte et je fus de suite admis dans son cabinet. « Vous avez vu ma mère, lui dis-je. Est-elle sérieusement malade et le lui avez-vous laissé voir? Pour l'amour de Dieu, dites-moi la vérité. Je puis la supporter. » Le grand homme me prit tendrement la main. « Votre mère n'a besoin d'aucun avertissement. Elle connaît l'état critique de sa santé, dit-il. Elle m'a envoyé chercher pour confirmer sa propre conviction. Je n'ai pu lui cacher, je ne dois pas vous cacher à vous-même, que ses forces vitales baissent. Elle peut vivre encore quelques mois dans un air plus doux que celui de Londres. C'est tout ce que je puis vous dire. À son âge, ses jours sont comptés. » Il me donna le temps de me raffermir sous le coup qu'il venait de me porter et mit alors à ma disposition sa vaste expérience et sa science étendue et consommée. Je consignai par écrit, sous sa dictée, les instructions nécessaires pour veiller sur la frêle condition de la vie de ma mère. « Permettez-moi de vous donner un avis, » dit-il au moment où je le quittais. « Votre mère désire particulièrement que vous ignoriez l'état précaire de sa santé. » Sa seule inquiétude est de vous voir heureux. Si elle apprend votre visite chez moi, je ne réponds pas des suites. Trouvez le meilleur prétexte que vous pourrez pour l'emmener immédiatement de Londres et, quoi que vous éprouviez en secret, gardez en sa présence un air de gaieté. Le soir même, je donnai à ma pauvre mère un prétexte facilement trouvé. Je n'eus qu'à lui annoncer le refus de Madame Van Brandt de m'épouser, et ce fut pour elle un motif suffisant à ma proposition de quitter Londres. Le même soir, j'écrivis à Madame Van Brandt pour l'informer de la triste cause de mon départ subit et pour l'avertir qu'il n'existait plus la moindre nécessité d'assurer sa vie. Mes avoués, lui écrivis-je, se sont chargés d'arranger immédiatement les affaires de Monsieur Van Brandt. Dans quelques heures, il sera libre d'accepter la situation qui lui est offerte. Les dernières lignes de ma lettre l'assuraient de mon inaltérable amour et la suppliaient de m'écrire avant son départ d'Angleterre. Cela fait, tout était fini. Chose étrange à dire, je ne ressentis à cette époque, la plus triste de ma vie, aucune souffrance aiguë. Il existe une limite, moralement aussi bien que physiquement, à notre faculté de souffrir. Je ne puis mieux décrire mes sensations dans les calamités qui venaient de m'accabler qu'en disant que je ressemblais à un homme qui vient d'être étourdi. Le lendemain, nous accomplissions, ma mère et moi, la première étape de notre voyage vers la côte sud du Devonshire.